Salut Siri, comment tu vas?
Je vais bien, merci. En quoi puis-je vous aider?
48 digital. Communication numérique. Réactivité.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'UPVD de Mende en partenariat avec 48FM, Lozère Développement et le programme La Fabrique des Territoires.
Bonjour à tous, nous sommes en direct sur 48FM, je m'appelle Lily Rose, je suis étudiante en licence TAFT à l'UPVD Antenne de Mende et je suis votre nouvelle animatrice pour cette édition de 48 Digital. Nous sommes en direct sur les pages YouTube et Facebook de Lozère Développement et celle de l'UPVD et sur les ondes de 48FM. J'aimerais commencer cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire à ma maman qui nous regarde en ce moment. Dans cette édition, mes camarades et moi-même allons vous parler du numérique et de la valorisation du patrimoine. Pour répondre à nos questions, nous recevons Emmanuel Solignac, chargé de mission tourisme au conseil départemental de la Lozère, Aurélien Foisse, qui travaille dans le domaine de la recomposition 3D du patrimoine, et Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire, Mende et Lot-en-Gévaudan. L'objectif aujourd'hui est de parler du numérique et de la valorisation du territoire. La question que nous nous posons est comment réussir à utiliser ces nouveaux outils pour valoriser le territoire. Bonjour Emmanuel Solignac, bienvenue dans 48 Digital depuis Pollen.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission tourisme au conseil départemental de la Lozère. Vous travaillez pour la valorisation du territoire, notamment par la création de sentiers patrimoniaux. Afin de faciliter cette pratique par les familles, vous développez avec des prestataires des sentiers de geocaching avec l'application Buladic. Découvrir un lieu, mais de manière ludique, c'est une nécessité en 2024 quand on s'adresse aux familles.
Oui, effectivement, c'est vrai que la cible et la clientèle famille en Lozère est quand même notre cible prioritaire, qui est très présente sur notre territoire. Nous avons quand même des atouts sur notre territoire qui sont bien entendu nos espaces naturels, mais aussi notre patrimoine. Et la volonté au travers de ces parcours baludiques était de pouvoir inciter nos visiteurs avec un public familial à aller découvrir le patrimoine et à rayonner un petit peu partout sur le territoire lozérien.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste l'application Baludic en quelques mots ?
Alors, Baludic, c'est une application qui permet d'identifier des circuits patrimoniaux que l'on peut retrouver sur 25 villages en Lozère. Ces circuits patrimoniaux sont donc numérisés dans l'application et permettent de rayonner, de déambuler dans les différents villages pour découvrir le patrimoine tout en s'amusant, puisque c'est une logique de jeu de piste où on passe d'une étape à l'autre en résolvant des énigmes pour avancer dans le parcours.
D'accord, merci. Alors, vous travaillez avec deux prestataires.
Oui, effectivement, c'est un projet que nous avons construit avec deux sociétés. Donc la société Baludic qui est en charge de la publication des circuits patrimoniaux sur leur application et qui a en charge la valorisation au niveau national de cette application, puisque la Lozère n'est pas la seule représentée dans l'application. Il peut y avoir des parcours répartis sur l'ensemble du territoire national. Et ensuite, sur la partie création des contenus, nous avons travaillé avec la société Expression Nomade qui nous a accompagnés en lien avec les territoires sur la création de ces parcours, la rédaction des contenus, la définition d'un fil conducteur et d'un fil rouge sur chacune des histoires, puisque chaque parcours est complètement différent.
D'accord. Comment est-ce que vous choisissez les circuits ? Est-ce que tous les lieux touristiques lozériens se prêtent au geocaching ?
Alors, pour faire ce choix des 25 circuits, nous avons travaillé en lien avec les collectivités locales. Donc nous avons demandé à chaque communauté de communes déjà d'identifier, de nous faire part des circuits patrimoniaux qui étaient déjà existants et qui étaient valorisés parfois avec un simple outil papier, une plaquette d'informations qui était souvent diffusée dans les offices de tourisme. Et en complément, on leur a demandé également de nous identifier des villes ou villages qui leur semblaient pertinents de valoriser sur leur territoire. Donc ils devaient nous faire des trois propositions par territoire. Et parmi ces trois propositions, nous avons retenu deux villages ou villes qui nous semblaient intéressantes, avec à la fois, ça pouvait être soit des parcours qui existaient et qu'on a retravaillé et revalorisé via l'outil numérique, soit une création à proprement parler sur un nouveau lieu qui n'était pas pourvu jusque-là d'un circuit patrimonial.
D'accord, merci. Donc, vous nous avez dit qu'il y avait bien 25 circuits sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils sont à peu près situés ?
Alors, comme je vous le disais précédemment, on a travaillé avec les communautés de communes pour nous identifier ces lieux. Donc, ils sont relativement bien répartis sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, vous en avez à Mende, à Marvejols, au Malzieux, à Saint-Alban, au Pont de Montvert. Voilà, il y en a vraiment partout. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser sur notre territoire, oui.
Super, merci beaucoup. Une dernière petite question. Comment se passe la création du circuit en amont ? Pour les construire, vous travaillez avec les collectivités locales et les acteurs du territoire.
Oui, effectivement. Donc, une fois qu'on a fait ce choix des lieux où on souhaitait proposer un parcours, nous avons travaillé localement avec un groupe projet qui était composé de l'Office de tourisme, des élus locaux qui avaient la volonté de s'investir sur ce projet-là et qui sont sensibles au patrimoine, mais également des acteurs du territoire qui sont très passionnés par l'histoire de leur territoire et qui sont venus nous aider dans la construction de ces parcours. Nous raconter l'histoire déjà de ces villages pour qu'on puisse identifier quel était le fil conducteur à retenir pour la construction du parcours, mais également nous faire des apports en termes de contenu, mais également d'outils numériques, puisque cette application peut intégrer aussi de vieilles photos, de vieilles cartes postales. Voilà, donc on a pu mettre en avant grâce à l'outil numérique.
D'accord, merci beaucoup. Donc, alors, le geocaching a été rendu possible avec le développement des smartphones et des applications qui lui sont dédiées. Nous allons écouter Megan qui va nous parler de la révolution du numérique, ses avancées et ses défis.
Bonjour Lily Rose. Effectivement, la révolution numérique a bouleversé notre monde. C'est un domaine qui a transformé notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Il a permis de nombreuses avancées, mais a également créé de nouveaux défis. Le numérique a apporté de nombreux avantages comme une connectivité instantanée, des avancées dans la médecine, les sciences, la technologie et l'accès à l'éducation. Par exemple, en 1960 est apparu Internet, un réseau informatique nous permettant de communiquer instantanément avec des personnes du monde entier, acheter des produits en ligne, accéder à une quantité incroyable d'informations, réserver des voyages et travailler à distance. Le phénomène de révolution s'est encore plus accentué avec notamment l'apparition des smartphones, tablettes et des technologies. Les smartphones ont remplacé de nombreux appareils électroniques tels que les appareils numériques, les GPS, les baladeurs MP3, les caméscopes. Et c'est ainsi que les réseaux sociaux se sont développés. Ils nous ont permis de partager des photos et des vidéos, de discuter de sujets d'intérêt commun et de se tenir informés des dernières nouvelles. Grâce aux réseaux sociaux, les entreprises ont pu promouvoir, recueillir des commentaires sur leurs produits et services et se connecter avec des clients potentiels. Les smartphones ont également permis le développement de nouvelles applications telles que les messageries instantanées, les jeux vidéo et même des jeux de pistes numériques appelés également géocaching, une activité ludique et éducative qui consiste à retrouver dans la nature à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone des boîtes cachées par d'autres personnes tout en découvrant les villes et sites patrimoniaux en famille. Le géocaching a été inventé en 2000 par Dave Ulmer, un consultant en informatique qui a caché un conteneur dans les bois près de Beaver Creek en Oregon et a partagé les coordonnées avec la communauté en ligne. Le jeu a rapidement gagné en popularité et a été nommé géocaching par Matt Stum sur la liste de diffusion GPS Stash Hunt le 30 mai 2000. Depuis lors, le géocaching est devenu un passe-temps populaire dans le monde entier avec des millions de caches cachées dans des endroits tels que les parcs, les forêts, les zones urbaines. Il existe plusieurs applications de géocaching disponibles sur les plateformes de téléchargement d'applications mobiles comme Terra, Aventura ou Baludic. C'est une solution idéale pour les entreprises, les associations et les familles qui souhaitent découvrir leur territoire tout en s'amusant. Les entreprises peuvent également utiliser Baludic pour organiser des séminaires d'entreprise et des team building. La révolution du smartphone a donc été un tournant majeur dans l'histoire de la technologie. Les smartphones ont transformé la façon dont nous communiquons, travaillons et interagissons avec le monde qui nous entoure et le tourisme n'a pas échappé à la règle.
Merci Megan pour toutes ces informations. Dans cette chronique, Megan évoque le geocaching comme une solution idéale aussi pour les entreprises et les associations. Vous les ciblez aussi ?
Alors, sur le géocaching, on n'a pas fait le choix d'aller sur du géocaching avec une boîte qui serait cachée, avec quelque chose à découvrir. Ça n'a pas été la volonté, puisque derrière, ça nécessitait aussi de gérer les contenus qu'il pouvait y avoir dans cette boîte. Et on voulait avoir un système qui soit complètement autonome. Mais je sais par ailleurs qu'il y a d'autres structures, type les offices de tourisme, qui travaillent aussi sur le déploiement du géocaching sur leur territoire, en complément de l'application Baludique et des projets que l'on peut développer. Voilà, sur le numérique et sur la découverte de notre patrimoine, au-delà de Baludique, il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui peuvent être développées en parallèle et qui peuvent très bien cohabiter.
D'accord. Alors c'est finalement une question principale dans cette émission. Pour vous, Emmanuel, quel est l'impact du numérique actuellement sur la promotion d'une destination ?
Alors on le sait, actuellement le numérique est très important puisque la majorité des choix qui peuvent se faire pour choisir sa future destination de vacances, elle se fait essentiellement via les outils numériques, via la promotion et la communication qui peut être faite en amont, via des images, des vidéos qui peuvent être vues et qui peuvent donner envie à des futurs visiteurs de venir sur notre territoire. Donc le numérique est essentiel pour communiquer. Il ne faut pas que ça soit une fin en soi, mais il faut vraiment le prendre en considération et travailler énormément sur ce sujet-là, puisque c'est quand même la porte d'entrée initiale pour inciter des visiteurs à venir sur notre territoire.
Donc c'est le moyen de faire découvrir autrement le patrimoine.
Également, voilà, tout à fait. C'est un moyen d'avoir une approche peut-être plus interactive pour découvrir un patrimoine, de pouvoir le découvrir sous un autre angle, sous un autre format, et de pouvoir apporter un niveau d'information et de connaissances à nos visiteurs par de nouveaux outils pour lesquels ils sont certainement aussi plus adeptes.
Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les fréquentations des circuits ?
Alors, nous sommes actuellement sur l'année 2023 où nous avons quasi la totalité des parcours, puisque l'année 2023, on a eu encore des parcours qui ont été créés. Donc là, on vient de les finaliser. Donc en 2024, on sera vraiment sur une année pleine. Mais on a environ 11 000, donc depuis la création en 2020, on a 11 500 téléchargements de parcours. Et donc sur une année, sur l'année dernière, nous sommes à 3 400 téléchargements sur l'année 2023.
Ce sont des bons chiffres.
Tout à fait, oui, on est plutôt satisfait. Alors c'est quelque chose sur lequel on va travailler maintenant avec les offices de tourisme, notamment sur le développement, la valorisation, la promotion, la communication de ces parcours, puisque au-delà d'avoir créé ces parcours, donc il y a un effet promotion et communication qui existe dès les premières années, mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire durer dans le temps et à valoriser auprès des visiteurs que l'on va accueillir dans les années à venir.
Justement, par rapport à cette communication, vous avez une stratégie, je suppose, qui est mise en place. À quoi est-ce qu'elle consiste à quoi ?
Alors, la stratégie de communication, il peut y avoir des actions de communication qui sont portées par le conseil départemental, par le département en direct, avec une valorisation via nos sites internet, via nos réseaux sociaux. Le comité départemental du tourisme valorise également ces itinéraires qui ont été construits. On les retrouve dans la base de données touristiques qui s'appelle Tourinsoft, donc ils ont tous été référencés dans cette base de données-là pour qu'ils puissent remonter sur les divers sites internet des offices de tourisme notamment. Et également après, en termes de communication numérique, on travaille en partenariat avec les offices de tourisme pour qu'eux soient aussi le relais de ces visites qu'ils peuvent proposer sur le terrain à destination des visiteurs qu'ils accueillent. Et on complète aussi notre communication, alors bien entendu sur les réseaux sociaux, sur avec la création d'outils numériques. Mais on demande aussi, il nous semble important que les prestataires touristiques, et notamment tous les hébergeurs touristiques, puissent également communiquer sur l'offre d'activités qu'il est possible de réaliser à proximité du lieu de séjour. Donc on travaille également là-dessus pour que tous les acteurs du tourisme assurent une valorisation, qu'elle soit, nous, à notre échelle départementale, mais aussi locale, parce qu'il nous semble important que le local s'investisse et s'implique dans la communication qui peut être faite de ces parcours.
Merci. Une petite dernière question. Quelles sont les autres pistes hors le géocaching pour s'adresser à la population familiale ?
Alors, au niveau du département, dans le cadre de la stratégie touristique départementale qui a été votée par les élus en 2022, nous avions engagé sur la précédente stratégie un projet qui s'appelle le Pass Lozère, qui est un chéquier qui permet de bénéficier de réductions chez les différents prestataires touristiques du département. Donc, ça s'adresse en grande partie aux familles, alors pas que, mais ça cible quand même la clientèle familiale. Et un des objectifs pour l'année 2024, c'est de pouvoir faire évoluer ce chéquier qui était en format papier en version numérique. Donc voilà, normalement, il devrait aboutir pour cet été 2024, on devrait avoir le nouveau Pass Lozère numérique qui devrait être mis en place.
Super, et bien merci beaucoup Emmanuel Solignac. Nous allons faire une petite pause musicale avant la seconde partie de l'émission.
Merci à vous.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent je suis tombé amoureux, mais pour une fois c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf on fume des clopes. 14 ans je suis juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre, pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints, et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme, quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne, sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier, et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Nous Nous sommes de retour en direct sur la page YouTube et Facebook de Lozère Développement, sur celle de l'UPVD et sur les antennes 48FM. Pour cette seconde partie de l'émission, nous recevons Aurélien Foisse, qui travaille dans le domaine de la recomposition 3D du patrimoine. Bonjour.
Bonjour.
Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine de la recomposition 3D du patrimoine ?
Alors, je ne saurais pas vraiment dater. Pour expliquer un peu comment on arrive à travailler dans ce genre de domaine, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'infocom, donc avec une agence de communication dans le domaine du plurimédia. Donc ça sous-entend techno, communication traditionnelle, ainsi de suite. Notre métier, si on veut le synthétiser, c'est on travaille pour des gens qui ont des messages à porter et on doit trouver le bon médium ou les bons médias pour porter ces messages. Et naturellement, je pense que c'est il y a un peu plus de 10 ans, 10-12 ans, où on a été amené à travailler pour du tourisme, axé en valorisation patrimoniale, et ensuite un petit peu plus sur des musées ou avec des organismes tels que le Pays d'Art et d'Histoire. Voilà.
D'accord. Est-ce que c'est un domaine dont le développement tend à s'accélérer ?
Je dirais qu'en fait, ça a suivi naturellement toutes les technologies de la communication et des médias, puisque qui dit patrimoine, valorisation, musée, etc., on est là pour raconter des histoires, l'histoire de l'homme, enfin de l'humanité, des civilisations, etc. Donc forcément, comme le tourisme ou d'autres domaines, ça s'est calé sur les avancées technologiques en communication. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'accélère ? Je ne sais pas, c'est peut-être que ça va prendre différentes formes avec toutes les technos que l'on a aujourd'hui.
Oui. Quelle est votre formation académique ou professionnelle pour ce domaine ?
L'impro. pour arriver là, pas vraiment, c'est la passion. Ma formation, je suis électronicien en fait à la base, donc j'ai fait beaucoup de physique, de maths, puis je me suis réorienté vers l'informatique et le développement informatique, mais à côté de l'école, c'est avant tout la passion, la curiosité, le dessin, la musique, la création, l'infographie 3D, etc., qui m'ont amené à travailler dans ce domaine, en fait à rassembler un peu toutes mes compétences pour travailler dans ces différents domaines, et la curiosité et la passion m'ont amené après à m'intéresser forcément au patrimoine, au musée, et ainsi de suite.
Qui sont les personnes qui font appel à vous ?
Alors, nous, de manière générale, on travaille vraiment pour tout type d'activité, des associations, des collectivités. Et dans ce domaine-là, on a eu la chance de travailler notamment pour le musée de Javol, donc, où il y a vraiment des besoins de raconter des histoires, de reconstituer, restituer. Et on a travaillé aussi pour le Pays d'Art et d'Histoire sur des thématiques vraiment très ciblées. Là, c'était les églises romanes, où on a recomposé en 3D une église en particulier pour expliquer son architecture et la façon dont elle était construite et dont elle avait été ornementée par la suite. Donc voilà, c'est ce genre de profil que nous, on a eu l'occasion jusqu'à présent de rencontrer.
Comment gérez-vous l'échelle des modèles pour qu'ils soient représentatifs de la réalité ?
L'échelle des modèles, on ne la gère pas vraiment, hein, on la mesure, on a des petits... des petits mètres laser, si on veut être précis, un peu comme les artisans qui viennent bosser dans nos maisons aujourd'hui, quoi. Donc on les pose, on fait tout un relevé métrique, et ensuite dans les logiciels, naturellement, on va reporter ces mesures dans les modèles 3D, on va retracer avec un petit procédé facile, hein. Souvent nos mesures, on les fait un peu comme en dessin technique, hein, vue de dessus, vue de face et vue de côté, et simplement avec ces trois vues, on arrive généralement à en tout cas pour des architectures, à les reproduire. Aujourd'hui, il y a quand même d'autres méthodes où avec ce qu'on appelle de la photogrammétrie, pour par exemple scanner des objets que l'on ne pourrait pas mettre à disposition du public, mais leur permettre quand même de les visionner sur un écran tactile ou directement en VR, on va faire de la photogrammétrie, et puis là c'est du scan avec de la photo ou des projections laser. On va récupérer ces données et ensuite les retravailler en 3D.
Et pour vous retravailler en 3D, vous utilisez quel logiciel ?
Alors, il y a plusieurs logiciels qui existent. Aujourd'hui, moi, j'utilise essentiellement Blender, qui est un logiciel gratuit et open source et qui est d'une puissance phénoménale pour ce genre de choses, pour de la 3D, mais ça sert aussi pour de nombreuses des applications telles que la vidéo, le compositing, etc.
Donc, vous pouvez également incorporer des informations cartographiques ou topographiques dans vos représentations ?
Ouais, tout à fait. En fait, on peut traiter tout type d'informations. C'est l'avantage en fait de l'outil informatique. L'outil informatique, enfin, on parle beaucoup de numérique, mais ça reste quand même des outils. C'est que des grosses machines à calculer, donc que des modèles mathématiques. Et qui dit modèle mathématique dit, bah, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec ce genre de logiciel. Et c'est tout ce que j'aime d'ailleurs dans ce métier, c'est qu'on va avoir souvent des problématiques qui nous sont données. On va chercher des solutions, on va se creuser un petit peu la tête et puis on va concevoir des choses pour arriver à certains objectifs et répondre à certains enjeux.
Donc vous avez parlé du site Javol et de l'église également. Est-ce que vous avez recomposé d'autres sites ?
Non, en tout cas pas qui touchaient directement au patrimoine. Ses compétences et la connaissance de ces technologies. On a eu l'occasion, par exemple, de travailler sur des plus petits objets dans d'autres domaines, par exemple des objets anciens pour qu'ils soient réimprimés en 3D. Il y a des particuliers qui nous ont fait des fois ces demandes-là. On a travaillé pour l'industrie, des fois refaire, remodéliser, recomposer certains objets ou pièces en particulier. Et ensuite, on a eu l'occasion de faire de la topologie par la photo pour des études d'aménagement de territoire ou de génie civil.
Donc, merci pour ces réponses. Kélian va justement évoquer le site de Javol.
Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Foisse, bonjour Lily Rose. Tout d'abord, donc, je vous remercie pour votre invitation sur le plateau. Alors en effet, j'ai choisi pour illustrer donc le thème de l'émission, le numérique et la valorisation du patrimoine, un sujet qui nous touche de près, un trésor local qui a su donc conjuguer passé et futur, le musée archéologique de Javol en Lozère. Alors, ce musée a vu le jour en 1998 dans un petit village singulier près de Saint-Chély-d'Apcher, un village donc qui a fusionné avec d'autres pour devenir le 1er janvier 2017 la commune nouvelle de Père-en-Aubrac. Alors, pourquoi avoir choisi Javol pour accueillir ce musée ? Eh bien, la réponse n'est pas le fruit du hasard, puisqu'il est situé à proximité d'un site archéologique qui raconte l'histoire captivante de Javol, donc l'ancienne capitale de la tribu gauloise, des Gabales à l'époque romaine, donc connue sous le nom d'Anteritum. Cette cité avait tout ce qu'il fallait, un forum animé, des bâtiments administratifs et de justice, des lieux de divertissement et même des thermes pour la détente. Cependant, les temples de cette époque restent encore un mystère à résoudre. Même si Javol a vu sa notoriété décliner au début du Moyen-Âge au profit de Mende, elle a continué d'être le centre des Gabales jusqu'au 7e siècle. Alors, de nos jours, le musée archéologique de Javol renferme une collection incroyable d'objets anciens, allant de poteries aux inscriptions romaines, en passant par des bijoux d'époque. Mais l'une des pièces maîtresses de cette collection est la statue en pied de Sylvain Sucellus, une divinité protectrice. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette statue a été numérisée en 3D et reproduite en résine pour être exposée au grand public. Les visiteurs malvoyants peuvent même la toucher et la manipuler pour une expérience immersive et inclusive. Une initiative que j'ai trouvée formidable, donc permettant de rendre la culture accessible à tous. Mais ce n'est pas tout. Le musée propose également une expérience en réalité virtuelle, donc qui vous plonge dans la vie de la cité antique au 2e siècle. J'ai eu la chance de tester cette expérience et je peux vous dire que c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, si vous l'avez déjà vécu, n'hésitez pas à partager vos impressions donc dans les commentaires. De plus, la région Occitanie a lancé en 2017 le programme numérique Javol 3D, donc qui comprend une application mobile gratuite pour une visite autonome. Depuis le 1er décembre 2020, cette expérience est disponible gratuitement sur la plateforme VR Steam, pour ceux qui possèdent un casque de, réalité virtuelle chez eux. Alors, après tout, pourquoi pas ne pas saisir cette opportunité et vivre une expérience fascinante à la maison. Pour terminer, je dirais que le numérique joue un rôle majeur dans la préservation et la valorisation du patrimoine. Donc, grâce aux progrès technologiques, nous pouvons reproduire et même faire revivre une œuvre datant de plusieurs siècles. Les outils innovants comme la numérisation 3D ou encore la réalité virtuelle nous permettent d'explorer le passé de manière immersive, de découvrir des détails à l'œil nu et même partager ces expériences avec un public mondial. Alors, il vous reste qu'une chose à faire, prenez vos téléphones portables et votre casque virtuel et partez donc explorer le village merveilleux de Javol.
Merci Kélian pour cette chronique. Aurélien, nous avons encore quelques questions à vous poser.
Oui.
Comment est-ce que vous gérez les mises à jour des modèles 3D, notamment lorsqu'il y a des changements qui se produisent sur le territoire réel ?
Alors, des mises à jour dans l'application ? En fait, c'est pareil avec nos outils. On va avoir tout simplement l'opportunité de venir mettre à jour le contenu par le logiciel qu'on va utiliser. Puis ensuite, il faut recompiler l'application. Tout dépend si on travaille sur du web, sur de l'application mobile, sur du logiciel, ainsi de suite. Et ensuite, dans le patrimoine ou en tout cas en muséographie, ce qui est intéressant, c'est d'accompagner les archéologues ou les chercheurs, quel que soit le domaine, dans leur travail de restitution et surtout pour les accompagner dans raconter l'histoire. Parce que ce qui est important en fait dans nos métiers, c'est pas tant le comment on va mettre à jour, etc., mais c'est de se poser la question de pourquoi on va la mettre à jour. Parce que forcément, nos anciens, ils n'ont pas laissé le mode d'emploi, les choses comme ça, etc. Donc, c'est tout un tas de personnes qui travaillent et qui étudient ces domaines, et c'est ça presque le plus intéressant. Et nos outils, en fait, viennent au service de ces messages et de leur travail. Et donc, des fois, la mise à jour, elle est là pour justement... montrer qu'il y a eu de l'avancement, qu'il y a eu du travail et que finalement ce que l'on pensait, on a découvert de nouvelles choses pour venir raconter l'histoire un petit peu différemment, quoi.
Comment vos modèles 3D peuvent-ils être utilisés pour l'analyse ou la prise de décision dans les contextes d'aménagement du territoire ?
Ça en fait, des fois c'est par rapport à des difficultés d'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux drones et les caméras ultra pointues qu'ils embarquent, on arrive à faire des relevés topographiques par la photogrammétrie sur des accès qui peuvent être compliqués, voire impossibles. Donc diminuer des coûts. Et donc par rapport à ça, soit géomètres, soit les personnes qui vont travailler à l'aménagement derrière, grâce à une modélisation 3D, vont pouvoir retravailler, simuler et ensuite sur les supports ordinateurs et voire même des fois en VR, on peut se projeter directement dans un nouvel aménagement et voir ce que ça rend presque en vrai, quoi, on va dire.
Quels sont les autres outils numériques que vous utilisez hors pour la recomposition ?
En dehors de la recomposition, les outils numériques, oui. Je pense tous. Tout ce qu'il y a de numérique, on l'utilise. L'ordinateur, les logiciels, on traite du son, on traite de l'image, on traite de l'information. Ensuite, en termes d'usage, on va essayer d'utiliser tous les supports qui existent aujourd'hui. Si on fait un petit parcours, on a le PC, les mobiles, les tablettes, on a les casques de réalité virtuelle, mais aujourd'hui on parle plutôt de casques XR, puisque Cross Reality, on mélange aujourd'hui la réalité virtuelle avec de la réalité augmentée, c'est-à-dire le réel, le virtuel est mélangé, ce qui permet de raconter encore plus différemment et de manière encore plus enrichie les histoires. Et naturellement, aujourd'hui, la révolution dans laquelle on est entré, c'est l'IA, quoi. Tous les agents IA qu'on nous propose sont des outils incontournables et qui vont enrichir encore plus notre travail demain.
Très bien. Quel conseil est-ce au niveau du parcours vous pourrez donner à des personnes qui souhaitent se destiner à travailler dans ce secteur ?
Un petit peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la curiosité et la passion un petit peu pour tout ce qui nous anime. On fait face à des technologies qui sont plurielles, donc ça demande parfois un effort de se transposer dans différents domaines. Donc, il faut être un petit peu pluridisciplinaire. Après, nous, on travaille à une moindre échelle et on a l'occasion de travailler avec des personnes qui, elles, vont être spécialisées. Ces domaines-là sont généralement assez vastes. Par exemple, pour le musée de Javol, on avait travaillé avec un collègue, Fabien Lacan, qui, lui, s'était spécialisé vraiment dans des outils à travers des moteurs de jeux vidéo pour proposer des applications, y compris, par exemple, pour des travaux de restitution avec les archives départementales. Donc ça, c'était le fait de mutualiser nos compétences, c'est très important. Donc le parcours, en fait, c'est d'abord savoir un petit peu où on va. Et puis aujourd'hui, est-ce que je me spécialise ou est-ce que je me donne du temps et de l'expérience pour visiter un petit peu, choisir plus tard ou devenir un peu compétent dans tout et travailler après avec des spécialistes, quoi.
Merci pour ces informations. On se retrouve tout de suite après la pause musicale.
Merci.
I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way.
Nous sommes de retour dans l'émission 48 Digital. Bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous rejoignent. Je suis en présence de Nelly Lafont, chef de projet pour le pays d'art et d'histoire de Mende et Lot en Gévaudan. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, Nelly, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle en tant que chef de projet ?
Alors, en tant que chef de projet, je suis la garante du label Pays d'art et d'histoire. Donc mon rôle consiste à faire vivre ce label sur le territoire, sur les communes labellisées, c'est-à-dire à mettre en place une politique de valorisation et d'animation du patrimoine, de mettre en place un programme d'animation sur ce territoire avec des collègues, des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de renseignements sur ce label ?
Alors, le label Ville ou Pays d'art et d'histoire ?
Le label Pays d'art et d'histoire.
Oui, voilà.
Ah, pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Donc, le label Ville ou Pays d'art et d'histoire a été créé en 1985 par le ministère de la Culture et de la Communication avec les collectivités. Il est donc attribué à des territoires qui ont un fort patrimoine et qui ont surtout le souhait de s'engager dans une démarche active de valorisation et d'animation de l'architecture et du patrimoine.
D'accord. Donc celui de Mende et l'autre en Gévaudan regroupe combien de communes ?
Il regroupe aujourd'hui 27 communes nouvelles, donc 31 communes historiques. Et à l'origine, donc lors de sa création en 2004, il en comptait 22.
Donc on a reçu Aurélien Foisse juste avant. Il a travaillé avec vous, notamment sur un film qui met en avant l'église de La Rouvière. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, donc l'église de La Rouvière se situe sur la commune de Pelouse, qui est une commune historique du Pays d'art et d'histoire. Le label a plusieurs priorités, dont une forte qui est la sensibilisation du jeune public à l'architecture et au patrimoine. Et donc c'est pour développer cet axe qu'on a monté il y a une dizaine d'années maintenant un projet autour de l'architecture romane. Et donc c'est dans ce cadre-là que ce film a été réalisé avec Aurélien, avec AFA Multimédia, dans l'idée donc de donner quelques clés de lecture de l'architecture romane, comment et pourquoi on construit à cette époque-là des églises. Et donc ça s'inscrit dans un projet plus global avec des ateliers en classe ou hors temps scolaire, des manipulations de voûtes, des constructions. Et donc dans ce film, Aurélien l'a dit tout à l'heure, il y a donc des images de l'église, mais il y a aussi une reconstitution du système de voûtement pour avoir une approche vraiment pédagogique pour que les enfants comprennent les systèmes de construction, le système de voûtement, comment il est fait à cette époque-là.
Comment le Pays d'art et d'histoire intègre des technologies innovantes pour la mise en valeur du patrimoine culturel ?
Eh bien, de cette manière-là, comme on l'a fait pour La Rouvière, c'est-à-dire de manière plutôt simple et plutôt limitée, mais toujours dans une approche beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'on va toujours intégrer ces innovations technologiques dans des projets qui ont d'autres outils de médiation également.
Y a-t-il des initiatives spécifiques liées à la numérisation et à la réalité augmentée ou d'autres technologies émergentes ?
Au sein du Pays d'art et d'histoire, alors là, on a lancé des initiatives de plus ou moins grande envergure avec des technologies innovantes. Et la toute dernière là, qui nous occupe encore actuellement, c'est un projet de reconstitution en 3D sur le château du Tournel. Donc le château du Tournel est un chantier de fouille depuis plus de 2 ans maintenant. C'est un projet qui est porté par la commune Mont-Lozère-Égoulée avec le soutien de nombreux partenaires financiers. Et donc en parallèle de ce chantier de fouille qui a permis vraiment une connaissance beaucoup plus riche en fait du site, un projet de valorisation en 3D a été lancé. Et donc là l'idée c'est de reconstituer le château tel qu'il pouvait être à son âge d'or, c'est-à-dire aller au 14e, 15e siècle, et de pouvoir donner aux visiteurs la possibilité de se balader à l'intérieur du château à cette époque-là, et surtout d'avoir accès à des données qu'on n'a pas sur le site, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fouillé, qu'est-ce qui a été trouvé en fait, donc les trouvailles, des connaissances historiques, des photos anciennes, de différencier aussi les parties reconstituées des parties existantes sur le site, etc. Donc c'est une façon pour nous d'amener un regard nouveau et surtout une médiation, un outil de médiation en plus pour la découverte sur le site, puisque cette application va être accessible depuis une borne tactile installée sur le site du château. Donc en attendant que le chantier soit terminé, devrait se terminer à l'automne 2024, la borne est installée à l'office de tourisme de Bagnoles-les-Bains.
D'accord. Nous allons maintenant écouter Elfreda qui nous a écrit une chronique sur l'impact du numérique sur la promotion du territoire.
Bonjour Lily Rose, bonjour Néline et merci de m'avoir invitée à votre émission. À mon avis, je crois que la numérique a joué un rôle énorme dans le développement et la révolution de l'industrie du tourisme. Grâce à des technologies telles que le big data et la reconnaissance faciale, facilite de nombreuses tâches que les utilisateurs effectuent lorsqu'ils voyagent et optimisent les processus internes des entreprises. Aujourd'hui, un nombre croissant de destinations utilise les technologies de tourisme intelligente pour enrichir l'expérience des voyages. Quelqu'un pourrait se demander, c'est quoi les technologies de tourisme intelligente? Alors, les technologies touristiques intelligentes, ou bien les TTI, font référence à des applications générales et spécifiques qui peuvent améliorer l'expérience des touristes, générer de la valeur ajoutée et accroître la compétitivité. Cela découle du thème touristique Smart Tourism, ou en français le tourisme intelligent, qui est un concept impliquant l'intégration d'outils de technologie de l'information et de la communication tels que le cloud computing et l'intelligence artificielle avec l'infrastructure physique, informationnelle, sociale et commerciale du tourisme pour offrir des opportunités de tourisme intelligente. Le marketing territorial est aujourd'hui considéré comme l'une des orientations prometteuses du développement des régions puisque le concept marketing de gestion territoriale implique un certain mécanisme qui permet d'augmenter la compétitivité du territoire. L'influence technologique dans l'industrie du tourisme n'a pas seulement un impact sur les fournisseurs, mais aussi sur les consommateurs et de nombreux chercheurs s'accordent sur les vastes possibilités d'application des technologies intelligentes dans les systèmes de marketing territorial. Maintenant, passons sur l'avantage et l'impact de la numérisation. Les données de l'enquête Voyage Baromètre de TripAdvisor ont montré que 4% des personnes interrogées ont réservé des voyages à l'aide d'une application mobile en 2014, ce chiffre ayant doublé pour atteindre 8% en 2015 et 11% parmi les voyageurs qui utilisent les smartphones pour planifier et réserver les voyages. Cela signifie que les gens sont de plus en plus intéressés par la réservation des chambres, d'hôtels, la location des voitures ou achat des billets, des visites et d'autres produits via leur téléphone. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies prévoit que les arrivées des touristes internationaux dans le monde augmenteront à un taux de 3 à 4% cette année, contre 1,235 millions en 2016. Et donc une augmentation des revenus de la destination. Nous pourrons également parler de la capacité de récolter des données et des analyses. Les consommateurs veulent se sentir spéciaux et attendre une personnalisation du service et de l'expérience. En capturant les données personnelles des clients et en apprenant davantage sur leur modèle de comportement, les entreprises optimisent de plus en plus de services tout au long du parcours client. Cela aide les pays dans son ensemble à étudier ces analyses afin d'anticiper et de se préparer à ses besoins et intérêts. Enfin, je voudrais parler des plateformes mobiles qui permettent aux organisations de marketing de destination d'interagir avec un visiteur à toutes les étapes de son expérience, de la prise de conscience à l'intérêt en passant par la réservation, la visite et la post-visite. Les réseaux sociaux numériques permettent également aux bouche à oreille d'atteindre les audiences exponentiellement plus larges. Ce changement sociétal a transformé les consommateurs de contenu en producteurs de contenu, ce qui fait de l'individu le fondement de toute stratégie marketing et destination. Cependant, comme toutes les avancées technologiques, elles présentent également un côté sombre, comme la confidentialité des utilisateurs et les préoccupations éthiques, l'utilisation de la technologie pouvant conduire à un déclin des interactions en face à face. Cela peut réduire la qualité globale du service client. De plus, la technologie peut également entraîner une augmentation des dépenses pour les entreprises car celles doivent investir dans du nouveau matériel et des logiciels. Pour conclure, bien qu'il soit reconnu que la technologie a un impact positif sur l'expérience touristique. L'efficacité et la compétitivité des entreprises et des destinations, son évaluation approfondie du point de vue des touristes et de l'industrie offre un grand potentiel dans un avenir proche. En outre, l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies prévoit que les arrivées des touristes internationaux dans le monde augmenteront à un taux de 3 à 4% cette année, contre 1,235 million en 2018.
Merci Alfreda pour cette chronique. Nous avons encore quelques questions pour vous. Existe-t-il des programmes d'éducation, de sensibilisation pour un jeune public ?
Au sein des villes et pays d'art et d'histoire, oui, c'est un volet très important. C'est une priorité de la convention signée avec l'État. Et donc, nous, on a la chance ici au pays d'art et d'histoire d'avoir un service éducatif. Ça veut dire qu'on a un enseignant qui est missionné au sein de la structure et qui est là donc pour nous aider au montage des projets pédagogiques et qui fait le lien avec l'éducation nationale. Donc c'est un très très gros volet, on intervient dans toutes les écoles du département et donc on a et nos interventions sont menées par des guides conférenciers agréés, donc oui, et, oui évidemment.
Le pays d'art et d'histoire est présent au musée du Gévaudan avec le centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine au sein du Gévaudan. Qu'est-ce que le CIAP et qu'est-ce que l'on y trouve?
Alors le CIAP, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, est une obligation de la convention qu'on signe avec l'État quand on obtient le label pays d'art et d'histoire, et c'est donc un équipement culturel multiple, on va dire, qui présente au sein d'une exposition permanente le territoire. Donc le nôtre a été créé en même temps que le musée du Gévaudan, il se déploie au rez-de-chaussée du musée et donc il présente au sein d'une exposition le territoire de ces 27 communes labellisées au travers d'abord d'un plan en relief sur lequel est projeté un court film d'animation qui est là vraiment pour donner des clés de lecture en fait, hein, du territoire, pour y plonger un petit peu dedans. Et ensuite, au travers d'une exposition sur les chemins et voies de communication, le visiteur peut s'amuser, peut jouer, peut manipuler, peut écouter, peut toucher le patrimoine. Et toujours dans l'idée, en tout cas on l'a conçu comme ça, dans l'idée de lui donner envie de sortir en fait, du musée, pour aller découvrir le territoire par lui-même, pour aller découvrir ses sites, pour aller se balader.
Qu'est-ce que les nouvelles technologies numériques apportent sur la connaissance du patrimoine ?
Énormément. On a du mal à imaginer ce que ça pouvait être en fait avant, parce que rien qu'au niveau de la numérisation des patrimoines, on a toutes les archives qui se numérisent petit à petit, les musées aussi, hein, on a des musées virtuels maintenant, c'est énorme en fait en termes de connaissances, d'apport de connaissances pour les recherches, pour les chercheurs, et pour tous les particuliers qui ont enfin accès à toutes ces données. Donc c'est une vraie démocratisation et c'est super.
Quelles actions met en place le PAH pour promouvoir le patrimoine auprès du grand public ?
Alors, on a un volet d'abord valorisation. Donc, on va développer des publications thématiques, on va faire des signalétiques, des expositions, ce genre de choses. Et puis, tout un volet animation. Donc là, on va développer des séries d'actions assez diversifiées, des visites guidées, des visites animées, des concerts, des spectacles, des conférences, des rendez-vous un petit peu décalés où on va mixer les disciplines et les publics aussi, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis évidemment le volet jeune public, donc des interventions au milieu scolaire, plein d'actions, plus ou moins visibles, plus ou moins de grande envergure, mais développées sur tout le territoire.
Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie nos invités Emmanuel Solignac, Aurélien Foisse et Nelly Naffon d'avoir bien voulu participer à cette interview et d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Je remercie également Kélian, Megan et Alfreda pour leur chronique riche en informations, mais également toute l'équipe technique et de communication, Apollène pour les locaux, à Lozère Développement pour leur aide précieuse, sans oublier 48FM. On se retrouve le 13 février 2024 à 12h30 pour une nouvelle émission de 48 Digital sur les objets connectés et le sport et le tourisme. Merci à tous.